Alexandre Moranville-Ouellet. Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à Cube Radio. Autre journée, autre fusillade à Montréal. Un homme de 31 ans qui a été blessé par balle près d'un hôtel du quartier Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, tôt ce matin, vers 4h15. Des détonations qui ont été entendues près du bâtiment. La police de Montréal qui a été appelée sur place. On a retrouvé des douilles et quelques heures plus tard, un homme, je le disais, 31 ans, se présente au centre hospitalier pour soigner une blessure par balle au haut du corps. Et donc, un autre périmètre de sécurité est érigé en ce moment par le SPVM pour tenter de recréer la scène. Il y en a de la violence par arme à feu. Heureusement, il n'y a pas de décès dans ce cas-ci, mais c'est un autre incident et il se multiplie encore ces jours-ci. Vraiment, un été chaud à Montréal, comme on s'y attendait. Mais sincèrement, ça reste inquiétant. Sinon, hier soir, une nouvelle qui a secoué, les États-Unis, mais le monde aussi, tous ceux qui suivent tout ce qui se passe dans la politique américaine. Donald Trump, sa résidence de Mar-a-Lago, sa célèbre résidence de Floride, a été perquisitionnée hier soir par le FBI. Une perquisition qui n'était pas attendue du tout du côté de l'ex-président américain qui a vivement dénoncé tout ça sur Truth Social et sur ses autres réseaux. Une perquisition qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait, dépendamment si on était informé ou pas, du milieu, parce qu'on sait il est visé par plusieurs enquêtes. Oui, il y a celle de l'insurrection du 6 janvier. Évidemment, le comité qui se penche sur les actions de Donald Trump liées à l'insurrection du Capitole qui pourrait porter des accusations éventuellement. Mais il y a aussi l'autre dossier, la mauvaise gestion des documents classifiés qui ont été envoyés à Mar-a-Lago. Parce que depuis 1978, il y a une loi aux États-Unis qui garantit que les présidents ne peuvent pas partir avec les documents officiels. Ils peuvent pas les emmener avec eux. Ils doivent les léguer aux archives nationales. Et Donald Trump, dans les mois qui ont suivi son retrait de la présidence, eh bien, on a appris qu'il était parti avec certains de ses cartons de documents, dont certains seraient classés secret défense, ce qu'il n'a absolument pas le droit de faire. Et on dit, selon certaines sources, que ce serait en lien avec cette enquête-là qui est faite. Il avait dû retourner certains cartons là, qui avaient été réquisitionnés par les archives nationales. Il pourrait y en avoir d'autres. Il y a également plusieurs rapports qui présentent le fait que Donald Trump aurait même déchiqueté certains documents pour tenter de les flusher, en bon québécois, dans les toilettes, ni plus ni moins. Photos à l'appui. Bref, tout ça, ce qui est important de suivre, surtout à la suite de cette nouvelle-là, c'est que ça secoue le monde des complotistes, entre autres, et des partisans fervents de Donald Trump qui ne cessent de ressasser de vieilles histoires et qui attisent, ni plus ni moins, la peur des autres supporters en disant que si ça peut arriver à un ex-président, ça peut arriver à n'importe qui. Je vais vous annoncer une nouvelle. Oui, c'est comme ça que fonctionne le système de justice. Que vous soyez le président, que vous soyez Jésus de Nazareth lui-même, vous êtes pas au-dessus des lois. Il y a personne qui l'est. Et même si vous êtes l'ex-président américain, si vous avez commis des crimes, eh bien, on va vous charger pour ces crimes et on va vous poursuivre. Moi, je trouve que c'est une nouvelle réjouissante. Et comme je le dis, il y a des gens là, qui appellent ni plus ni moins aux armes parmi les supporters les plus ardents de Donald Trump. Et même si certains réseaux sont accusés d'avoir lâché par la base de Donald Trump, d'avoir lâché l'ex-président, on parle entre autres de Fox News, eh bien, hier, sur les ondes de cette même chaîne, dans les heures qui ont suivi, on a prononcé le nom de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, sur lequel on pousse toutes sortes de théories du complot fumeuses par rapport à son fameux ordinateur portable. Eh bien, son nom a été prononcé 46 fois. 46 fois minimum dans les heures qui ont suivi à Fox News. Bref, il n'y a rien qui change, mais ça pourrait quand même amener des nouveaux développements dans ces histoires-là. Sinon, hier, il y a un comité qui a tenu une réunion d'urgence, le comité des transports de la Chambre des communes, qui a annoncé vouloir enquêter sur les retards dans les aéroports et les annulations de vol des transporteurs. Vous savez comme moi que c'est une période estivale assez difficile. Merci pour partir en voyage. Il y a eu la crise des passeports, il y a des files d'attente épouvantables aux aéroports, il y a des vols qui sont annulés un peu partout. Et donc, c'est sur ces événements-là qu'on veut faire la lumière. Sur ce comité, Simon-Pierre Savard-Tremblay est député bloquiste de Saint-Hyacinthe-de-Bagot et donc siégeait hier sur ce comité. Bonjour, Monsieur Savard-Tremblay.
Bonjour, M. Morinville-Ouellet.
Tout d'abord, qu'est-ce qui a justifié hier une réunion d'urgence de ce comité?
Je dirais en fait qu'une réunion d'urgence est généralement justifiée par l'urgence de la situation. C'est-à-dire, ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'était pas très beau. Ça aurait pas dû nous surprendre qu'après deux ans et demi comme ça de pandémie, que les gens aient envie de voyager soudainement. Ça fait deux épisodes qu'on voit la gestion des aéroports, puis juste avant la gestion des passeports, qui nous laisse entendre qu'on n'était pas prêt à ce point-là. Mais ce qu'on a vu, là, ce qu'on a entendu, là, c'était pas très beau. C'est-à-dire, on a entendu des témoignages, là, il était question d'enfants qui auraient entendu assis par terre pendant 30 heures. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable en 2022 dans un pays comme le nôtre.
Hier, dans votre réunion, vous avez voté à l'unanimité pour vous pencher sur les retards, sur les annulations. Qu'est-ce qui a été décidé, entre autres, là, de faire du côté du comité?
En fait, ce qui est important, c'est de recevoir le ministre des Transports, parce que le gouvernement, il est imputable. Il faut qu'il nous réponde. Il faut qu'il justifie ses politiques. Il faut qu'il justifie aussi ses non-politiques, c'est-à-dire son inaction dans bien des domaines. Qu'on parle de Arrivcan, qui est cette application qui a causé plusieurs problèmes, qui, en théorie, là, sur papier, est censée faciliter les choses parce qu'on dit on fait notre déclaration d'avance, mais qui, dans les faits, sur le terrain, si on suit, par exemple, à ce qu'au syndicat des douaniers nous a dit, dans les faits, ça vient plutôt retarder les choses. Le syndicat des douaniers nous dit, hey, on a des gens qui, on a de la misère à gérer l'ensemble des tâches, puis là, vous nous demandez, en plus de numériser un code en arrivant pour les citoyens qui atterrissent, pourquoi on n'envisagerait pas autre chose? C'est pour ça que nous, par exemple, là-dessus, on prône la suspension temporaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abolir complètement. Ça ne veut pas dire que tout est à rejeter dans cette application-là que plusieurs personnes, sans doute, qui nous écoutent, ont eu à utiliser dans les derniers jours, en ce deuxième jour post-vacances de la construction. Mais ça veut dire à tout le moins que la suspendre temporairement, prendre le temps de l'étudier, regarder comment ça pourrait être mieux, ça serait sans doute la solution la plus lucide pour l'instant. D'ailleurs, en Europe, c'est une déclaration en ligne que vous faites de chez vous. Merci, bonsoir. Pourquoi pas quelque chose comme ça ici, c'est à aborder.
Ouais. Alors, vous voulez que Omar Al-Ghabra, donc le ministre fédéral des Transports, s'assoie devant le comité, doit comparaître. Quelle réponse vous espérez qu'il vous donne sur ces divers sujets-là? Est-ce que vous avez des questions déjà que vous avez là, qui vous brûlent les lèvres de le poser?
Ben écoutez, il y a plusieurs justifications, pas tant uniquement du ministère des Transports, mais aussi au niveau du gouvernement de manière générale. Par exemple, comment se fait-il que l'industrie du transport n'a pas été soutenue, par exemple, de la même manière que ça s'est fait aux États-Unis ou en Europe dès les débuts de la pandémie? Ça a pris plusieurs mois, il a fallu qu'il y ait un changement de ministre des Transports même pour que ça commence à se faire. Il me semble que ça aurait dû être prévu. Comment se fait-il qu'on n'a pas soupçonné que les gens auraient envie de voyager après deux ans et demi de crise comme ça? Comment se fait-il également que la pénurie de main-d'œuvre, parce que ça, j'imagine d'emblée que c'est la réponse qui va nous être servie, parce que la pénurie de main-d'œuvre fait qu'il y a un problème criant de personnel dans les aéroports. Comment se fait-il que ça n'a pas été davantage abordé puis que le gouvernement s'est entêté aussi longtemps à défendre, par exemple, la PCU devenue PCRE par la suite? Il y a toutes sortes de questions comme ça qu'on peut poser. Et le gouvernement aussi, à mesure que les différentes oppositions poussaient pour qu'il y ait un plan de déconfinement. Ça ne veut pas dire un déconfinement immédiat, mais un plan comme l'ensemble des gouvernements des provinces l'ont fait, c'est-à-dire qu'on sache étape par étape ce qui va être fait, qu'on le sache à l'avance et qu'on sache pourquoi c'est fait aussi, qu'on puisse débattre de chaque étape. S'il y avait eu cette prévisibilité-là, probablement qu'on n'en serait pas au niveau où on l'est maintenant.
Il y a quand même aussi une certaine responsabilité qui peut incomber aux transporteurs aériens. Les compagnies aériennes ont augmenté leurs offres parce qu'ils voulaient avoir leur part de marché, faire de l'argent, mais ils ont même pas pris en compte, dans plusieurs cas, leur capacité au niveau de main-d'œuvre, d'opération, d'infrastructure à être capable d'offrir ces vols-là. Est-ce qu'il va y avoir des PDG de compagnies aériennes qui vont être convoqués également?
Écoutez, ça serait sans doute abordé. Là, notre priorité, bien sûr, était au niveau politique, parce qu'on le gouvernement doit être imputable non seulement aux citoyens, mais aussi aux élus des citoyens. Oui. Les oppositions en démocratie, ça sert à ça aussi. Donc, ça pourrait éventuellement être une idée si l'étude est poursuivie. Mais ce que vous dites est tout à fait pertinent, puis je vais vous dire, il est absolument scandaleux que Air Canada, par exemple, ait annoncé hier qu'il n'y aurait pas de remboursement pour les annulations de vol. c'est inconcevable. Un citoyen qui remplit sa part du contrat, c'est-à-dire de dire « j'utilise mon argent durement gagné pour acheter un billet d'avion, je me rends à l'aéroport », ben il me semble qu'il doit s'attendre à ce que la compagnie aussi remplisse sa part du contrat, c'est-à-dire d'offrir le service.
Mais allez-vous les forcer à rembourser les gens du côté d'Air Canada?
Ben écoutez, je vous dirais en fait que de manière générale, il y a un trou dans la législation. Il y a un trou dans la réglementation. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe du côté des États-Unis ou de l'Europe, il y a des réglementations beaucoup plus sévères. Et si un transporteur refuse de rembourser, il y a une amende, tout simplement. Ben, il faudrait en arriver à une forme de réglementation qui serrerait la vis davantage aux compagnies comme ça.
Prévoyez-vous tenter de l'implanter, cette législation-là?
Oui, absolument. Regardez, nous, on n'a jamais de problème avec à pousser pour des propositions. Et puis, comme vous savez, en politique, tout est souvent question de momentum. Là, je pense qu'on en aurait un pas pire. Fait que si le gouvernement est prêt à nous entendre, qu'il le fasse, on va être les premiers à les féliciter et à les remercier pour ça.
Là. Vous parlez de changer de législation, là, un peu partout dans le monde, on peut, du côté des aéroports, ordonner aux transporteurs de réduire leur nombre de vols. On se rend compte, là, du côté de l'aéroport, que ben, l'offre est impossible, les infrastructures sont pas suffisantes et autres. Ici, c'est malheureusement impossible. Ça pourrait expliquer en partie là, certaines congestions dans les aéroports, entre autres à Toronto. Est-ce que vous comptez changer aussi cette législation-là pour donner plus de pouvoir aux aéroports eux-mêmes?
Écoutez, ce serait sans doute à aborder également. Comme je vous dis, on part pas avec des préjugés, avec des prérequis. L'idée de ce comité-là, c'est l'étude. C'est qu'on va aller écouter justement l'ensemble des acteurs. On va aller écouter ceux qui ont à s'expliquer là-dessus, puis après ça, on pourra voir ce qui est le mieux par rapport à tout ça. On part pas avec, disons, une idée idéologique des choses là, par rapport à tout ça. Là. Donc, ça sera sans doute une idée à aborder. Et puis, saviez-vous d'ailleurs que la charte des voyageurs qui défend les droits des voyageurs ne s'applique pas aux aéroports et aux ports fédéraux? C'est quand même assez curieux aussi quand on regarde ça.
Ouais, c'est curieux. Pour ce qui est qu'est-ce qui est à l'horaire, qu'est-ce qui est à l'agenda maintenant pour votre comité? Est-ce qu'il y a des audiences qui sont prévues cette semaine, dans les prochaines semaines, prochains mois?
C'est très imminent, là. C'est très imminent, mais il est prévu essentiellement d'abord que dans le cadre des prochaines séances, il y ait la présence du ministre. Et ça, je vais vous dire que c'était pas gagné d'avance. Ça, c'était le grand combat qu'on avait amené et qu'on reçoive également le syndicat des douanes parce que ce sont eux et elles qui vivent cette situation-là au quotidien.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, député bloquiste de Saint-Hyacinthe-Bagot et membre du comité permanent des transports, d'infrastructures et des collectivités. Merci d'avoir été là.
Merci à vous.
Au revoir.